Et ce matin, on va voir encore l'œuvre que Jésus a fait sur cette terre, quand il était sur cette terre, et que maintenant qu'il est ressuscité, c'est la même chose. Il agit encore aujourd'hui de la même façon qu'il agissait du temps qu'il était sur cette terre, en Israël, et qu'il prêchait, et qu'il guérissait les malades, et que Jésus libérait les gens qui étaient pris avec des mauvais esprits, etc. Parce que Jésus était au-delà de toute puissance, et encore qu'il est ressuscité, il a tout mis sous ses pieds. Christ a tout mis sous ses pieds, toutes les dominations, ramassez toutes les forces de l'enfer, de l'univers, mettez-les ensemble, et Christ les a mis sous leurs pieds, sous ses pieds à lui. Et nous avons en lui cette autorité. Dans la prière, imaginez, la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens, le chapitre 2, le verset 8, je crois, que nous avons été ressuscités ensemble avec Christ. En lui, nous sommes dans les lieux célestes, notre esprit est avec lui, lui est en nous et nous sommes en lui. Et notre position, c'est une position d'autorité dans la prière. Et c'est pour ça que quand nous prions avec son autorité, comme si on avait le mandat exactement comme lui de le faire. Donc ça, c'est merveilleux. Donc ce matin, j'aimerais qu'on puisse vraiment regarder le texte de départ et donc de prier avec passion, c'est de se jeter aux pieds de Jésus en croyant vraiment qu'il va agir. Donc en partant en croyant qu'il va agir. Donc on va lire dans Marc chapitre 5. Donc on va regarder la petite image. On va revenir à l'image. Donc on voit ici... c'est l'image de Jaïrus qui est un des chefs de la synagogue de la place, qui est venu voir Jésus parce que sa fille était très malade, et c'est ce qu'on va lire ce matin. Et qu'au travers de tout ça, il y a une autre histoire qui vient se croiser en même temps que son histoire à lui, en même temps que son besoin, et on va regarder ça ensemble. Donc dans Marc chapitre 5, le verset 21, on va lire ensemble aux écrans. Donc Jésus, dans la barque, regagnait l'autre rive. Et vous savez, en lisant ça ce matin, en relisant le texte et en repassant au travers ce partage-là, je suis arrêté avec une pensée. Jésus, dans la barque, regagnait l'autre rive. Parce que des fois, ça arrivait que Jésus n'était pas dans la barque, mais il marchait sur l'eau. Fait que là, il spécifie que là, Jésus il arrive dans la barque. Mais c'est arrivé des fois qu'il marchait sur l'eau. Une fois, il essayait de dépasser les disciples, il ventait, les disciples étaient effrayés, il y avait vraiment une super tempête, et à un autre moment donné, où est-ce que Pierre, il a dit, si c'est vraiment toi, Jésus, ordonne que j'aille vers toi, et là, Pierre, il dit, viens, Pierre a débarqué de la barque, était le seul qui a eu le guts de débarquer de la barque, il a commencé à marcher sur l'eau, vous savez l'histoire. Il a commencé à regarder aux vagues, aux problèmes, puis il a commencé à caler. C'est de même dans la vie. On regarde à Jésus, ça va bien, mais là, on commence à regarder à nos problèmes, on cale. On cale dans le désespoir, on cale dans la dépression, parce que, bon, on ne voit plus le bout de s'en sortir. Et puis, vous savez, la vie, c'est souvent des tempêtes. Souvent des moments calmes, mais souvent des tempêtes aussi. Et puis, ce matin, encore une fois, on va voir vraiment une façon de faire de Jésus qui nous démontre que tant qu'on laisse nos yeux sur lui, vraiment l'espoir, elle est là. Sa grâce, elle est là. Et le moyen de nous en sortir est toujours là quand nous regardons à lui, tout simplement avec foi. Donc, Jésus regagne l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors, un des chefs de la synagogue, celui qu'on a vu tantôt, mais disons, tantôt c'était... C'était pas le vrai, là, c'est juste une image. Mais alors que le chef de la synagogue, nommé Jaïrus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds. Ça me touche. Il se jette à ses pieds. Et lui adresse cet instant de prière. « Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Donc, Jésus s'en alla avec lui. Donc, Jésus, il vient, cet homme-là vient, se prosterne et il fait cette demande-là à Jésus. Et là, Jésus commence à marcher avec lui vers le chemin de la réponse, vers le chemin où est-ce que Jésus va répondre. Mais vous allez voir, parce que là, cette semaine, j'amène la première partie, mais il y a deux parties. Il y a une partie cette semaine, il y a une partie la semaine prochaine. Puis invitez les amis la semaine prochaine parce qu'il va y avoir cette continuité de ce message-là. Donc, Jésus s'en va avec lui. Dès que cet homme lui adresse la prière, Jésus se met en marche. Jésus voit son cœur. Sa fille est à l'extrémité, elle est près de mourir. Donc, et là, ça dit qu'il y a une grande foule qui suivait et pressait Jésus. Il le suivait et Jésus était pressé de tout bord, tout côté par des gens. Et quand ça dit il le pressait, c'est que vraiment c'était compacté. C'était vraiment une boîte de sardines géante, là, toute tassée, là. OK? Si on peut amener une image à ça. Or, il y a une autre histoire qui commence dans la même histoire. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et n'avait éprouvé aucun soulagement. Même, elle était allée plutôt en empirant. Ça n'allait pas bien, son affaire. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule, par derrière, toucha son vêtement, car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. » Vous savez, Jésus est ressuscité. Puis à tous les jours, on peut toucher son vêtement si on veut par la foi. On va le voir. C'est une affaire qui peut se vivre à tous les jours, par la foi. Au même instant, elle touche son vêtement. Elle confesse, « Je vais être guéri. Si je touche Jésus, je vais être guéri. Je vais être guéri. » Au même instant, la perte de sang, elle s'arrête. Ça faisait 12 ans. On ne sait pas pourquoi cette femme-là avait une perte de sang. C'est probablement suite à un accouchement ou peu importe. Mais ça faisait 12 ans qu'elle perdait son sang. Qu'elle devait être faible, elle devait faire de l'anémie. Elle devait vraiment pas filer. Puis on va voir tantôt que ça y amenait un paquet d'autres problèmes au niveau social, puis au niveau de la communauté, ça y amenait plein de problèmes aussi. Qui sont vraiment pas cool. Jésus connut aussitôt, donc ça dit, la perte de sang s'arrêta et elle sentit que son corps, que dans son corps, elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements? » Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse. » Hein, les disciples sont là, ils disent, mais Jésus, voyons, il y a plein de monde autour de toi qui te presse de tout bord, de tout côté, donc t'es touché de partout, là. Mais Jésus, se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Dans le fond, Jésus, si le texte dit « celle qui avait fait cela », c'est qu'il savait. Jésus savait très, très bien. Et le pourquoi, on va le voir tantôt, le pourquoi que Jésus a fait que cette femme-là sorte de l'ombre. On va le voir tantôt. Tout comme, on va voir tantôt que Dieu, que Jésus-Christ désire que chacun de nous puissions, avec un témoignage puissant de sa grâce, sortir de l'ombre aussi. Donc, sachant ce qui s'était passé, elle vint toute tremblante. Luc, dans l'évangile de Luc, le même récit est relaté dans Luc 8. Et elle dit, elle vint toute tremblante, se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix, sois guérie de ton mal. Wow! Donc l'évangile de Marc nous raconte deux situations de deux personnes dans un seul récit, comme si ces récits-là étaient imbriqués un dans l'autre. Et plus je lisais ça, plus j'étudiais le texte, j'ai dit, waouh, il y a des perles. Et j'ai essayé de mettre le plus de perles possible et de diamants dans mes feuilles ce matin. Mais il y a des perles, il y a des choses merveilleuses qui en sont ressorties, des principes vraiment que j'aimerais vous partager ce matin. Donc, on voit premièrement Jaïrus, qui a une fille de 12 ans, qui est à l'article de la mort. Je ne sais pas, vous, si ça vous est déjà arrivé d'avoir quelqu'un que vous aimiez profondément et que là, vous savez que cette personne-là est à l'article de la mort. C'est vraiment borderline là, avant qu'elle trépasse dans l'au-delà. Deuxièmement, On voit dans le récit qu'il y a une femme qui est atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Ça n'arrête pas. Ça coule continuellement. Et on voit un détail que j'ai vraiment mis ici, que les deux, à un moment donné de leur démarche avec Jésus, vont littéralement se prosterner devant lui. Et il y a une clé dans le fait de se prosterner devant Dieu, de se prosterner devant Jésus-Christ. Il y a une clé au travers de tout ça qu'on va voir tantôt ensemble. Donc, si ces deux personnes-là vont vers Jésus, c'est parce qu'elles croient qu'il peut faire quelque chose par rapport à leur situation respective et extrême. Parce qu'ils sont dans deux situations. Chacune de leurs situations, c'est extrême. Pour le chef de la synagogue, lui, sa fille est sur le bord de mourir. Pour cette femme-là, elle est à l'extrémité, elle n'a plus d'argent, elle a tout gaspillé son argent au travers des médecins, elle a terriblement souffert, elle a été terriblement déçue par la médecine de cette époque-là. Puis laissez-moi vous dire que la médecine à cette époque-là, c'est pas comme la médecine aujourd'hui là, qui est infiniment plus scientifique. Mais à l'époque, elle avait vraiment souffert, elle avait tout pris, toutes ses économies, tout ce qu'elle avait. Elle avait tout pris, là. Elle était sans le sou. Elle était vraiment comme rendue, on pourrait dire, comme au bout du rouleau. Et je ne sais pas si vous, ça vous est déjà arrivé à un moment donné d'arriver dans des situations où vous vous sentiez comme acculé au pied du mur, vraiment senti au bout du rouleau total, là, vraiment, mais total. Je ne sais pas si vous êtes déjà senti, avoir eu ce sentiment-là que, regarde, il n'y a plus d'espoir. Dieu, si tu n'interviens pas, il n'y a plus d'espoir. Donc, leur démarche, c'est elle entend parler de Jésus, elle entend parler que lui, il fait des miracles, que lui, quand lui passe, tout casse. Je parle de la puissance de l'ennemi casse. Les ténèbres sont remplacées par la lumière et la maladie est remplacée par la guérison. Les cœurs brisés sont remplacés par des cœurs qui sont restaurés et réparés. Et c'est ça, Jésus-Christ. Et il est encore le même aujourd'hui. Il change pas. Il veut prendre place dans chacune de nos réalités à chacun de nous. Combien est-ce qu'il y en a qui croient ça ce matin? Donc, elles vont voir, lui, Jaïrus va voir Jésus, et là, Jésus s'en va avec Jaïrus vers l'endroit où il demeure, où est-ce que sa fille est malade. Et là, entre-temps, il y a une femme qui entend parler de Jésus, il dit, Paul, v'là ma chance. Non, Paul, il dira pas ça. Non, mais il dit, v'là l'opportunité de ma vie de rencontrer Jésus. Lui, ben, je suis certain qu'il va faire quelque chose parce que ce que j'entends parler de lui, c'est que quand les gens vont le voir, il y a toujours quelque chose qui se passe. Ils sont touchés, soit ils sont transformés, soit ils sont guéris. Ben, moi, là, j'y vais, je m'en vais le voir, puis je suis certain qu'il va se passer de quoi. Elle, là, c'est dans cet esprit-là qu'elle est allée voir Jésus. Parce que je suis sûr qu'il va se passer de quoi. Fait qu'imagine, il y a deux vies, deux histoires différentes qui chevauchent. Puis on va le voir tantôt, c'est vraiment remarquable la façon que Marc, que Luc ont rapporté ce récit-là. Et puis plus je le lis, puis plus je me réjouis de voir comment Jésus, comment notre Père Céleste, il est précis, comment il nous aime tellement d'un amour infini que dans notre vie, il va permettre des situations, des opportunités qui vont nous amener à croire en lui et à voir sa puissance agir dans nos vies. Et je remercie Dieu pour cette puissance infinie et cette grâce qu'il a envers nous. Donc, elles ont confiance, ces deux personnes-là ont confiance en lui et savent qu'il veut, à cause de son amour et qu'il peut, à cause de sa puissance, venir à leur secours. Et j'aimerais que vous me montriez un seul endroit à travers les évangiles où quelqu'un qui a eu besoin d'un secours et qui est allé vers Jésus avec foi n'a pas été secouru d'une manière ou d'une autre. Je vois aucun récit où est-ce qu'une personne avec sincérité s'est approchée de Jésus et n'a pas été répondu dans sa requête. Jésus a toujours répondu à tous et à chacun selon leurs besoins. C'était du cas par cas, mais je pense à cet aveugle où est-ce que Jésus a craché à terre, il a fait de la bouette puis il a mis dans les yeux. Et puis la Bible nous dit, on l'a vu il y a quelques semaines passées, que probablement il y a certains théologiens qui disent qu'il n'y avait même pas d'orbite dans ses yeux, là. à l'intérieur. Donc, c'est comme si des yeux avaient été recréés comme ça. Donc, Jésus a cette puissance-là de faire ça, de recréer en nous. Les cœurs brisés que nous sommes, il peut recréer un cœur nouveau. Il a cette puissance de faire ça en nous. De vieilles blessures qui sont là, il a le pouvoir de guérir ces blessures-là, de nous donner la force de pardonner. Parce que des fois, il y a des gens qui nous font du mal, que humainement, oubliez ça, on ne serait pas capable de pardonner. Mais parce que la grâce de Dieu agit en nous, parce que son amour d'abord nous a amenés à aller chercher le pardon auprès de lui, de nous pardonner de nos péchés, et son esprit en nous nous amène, nous aussi, à pardonner à ceux qui nous font du mal. Mais il y a le pouvoir, et le pardon amène beaucoup de guérison dans nos cœurs aussi. Mais je ne veux pas trop entrer là-dedans. Donc, on va voir un premier point ce matin, que de venir se jeter aux pieds de Jésus, c'est de premièrement exprimer notre confiance, notre foi en lui avec humilité. On voit ces deux personnes-là de façon différente vont se jeter aux pieds de Jésus pour l'adorer, pour lui dire « Je reconnais que tu es supérieur, je reconnais que qu'est-ce que tu es, c'est vraiment de Dieu. » Ils reconnaissaient la supériorité de Jésus en tant que personne. Et c'est pour ça qu'ils se prosternaient. Et malgré que Jaïrus était un chef de synagogue, OK, il soit quelqu'un d'assez important dans sa communauté, parce que c'était quand même quelqu'un d'important dans sa communauté, il reconnaît en Jésus celui qui est tout-puissant. Il reconnaît en Jésus celui qui est tout-puissant. Et c'est la raison pour laquelle il va se jeter littéralement à ses pieds. Puis, nous, en tant que croyants, on va manifester notre foi en Jésus, notre foi en lui, en venant à lui avec humilité et en reconnaissant nos limitations humaines. Et laissez-moi vous dire, la porte d'ouverture, où est-ce qu'on peut permettre à Dieu, la clé qui permet d'ouvrir le ciel et de recevoir la bénédiction de Dieu, c'est de s'humilier devant lui, de reconnaître ce qu'il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. C'est le premier critère et c'est la raison pour laquelle que Jaïrus, autant aussi pour cette femme, que Dieu a répondu si puissamment à leur prière. C'est pour cela. Dans Jacques chapitre 4, le verset 6, ça nous dit « La grâce qu'il accorde » est plus grande encore. Il accorde chacune grâce à chacun de nous. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles, à ceux qui reconnaissent leurs besoins, à ceux qui reconnaissent qu'ils sont des créatures et que Dieu est le Créateur et que la créature doit adorer le Créateur, d'abord et avant tout. Nous sommes des êtres créés, infiniment aimés par lui et aimés de lui. Il est Jésus-Christ, le Dieu sans limite, qui désire vraiment prendre la place, toute la place dans nos vies et dans nos situations les plus critiques, si on veut bien lui laisser toute la place. Donc, on a le choix de lui laisser toute, ou d'y en laisser la moitié, ou de ne pas lui en laisser pantoute. L'humilité, c'est de reconnaître que Dieu est notre Créateur et que nous sommes ses créatures. L'humilité, c'est d'admettre que sans Jésus, nous ne pouvons rien faire et que nous sommes complètement perdus sans lui. Disons, oui, on peut faire des choses sans lui, mais c'est des choses qui vont connaître que du vent, tout simplement, qui, au bout du compte, n'auront pas glorifié Dieu. Moi, ce que je veux, c'est d'accomplir les œuvres qu'il a créées pour moi. La Bible nous dit que Dieu a préparé des œuvres, qu'il nous a créées afin de préparé des œuvres afin qu'on puisse les pratiquer. Il nous a créées spécifiquement pour des œuvres qu'il a créées pour nous d'avance. Et ça, c'est merveilleux, parce que quand nous entrons dans le domaine du plan de Dieu, de ce qu'il a créé pour nous, c'est là que vraiment nous trouvons le plein épanouissement pour nos vies et notre raison d'être aussi. Et d'abord et avant tout, notre identité, ben, elle est en Dieu, elle est en notre Père céleste. Est-ce qu'il y en a qui peuvent dire amen à ça? Amen. L'humilité, on va le voir à l'écran, l'humilité se manifeste quand nous admettons nos faiblesses, nos limites, et que nous reconnaissons la toute-puissance de Dieu, et notre foi en Dieu grandit, quand nous réalisons qu'il est la réponse à nos problèmes les plus profonds. Jésus-Christ est la réponse. je dirais, au monde, ce monde. Moi, je dirais que s'il y avait un réveil mondial, où est-ce que tous les gens donneraient one shot leur cœur à Dieu, complètement, le monde serait changé instantanément. La guerre cesserait instantanément. Il n'y aurait plus de meurtre, il n'y aurait plus rien. Imaginez. Mais un jour, ça va arriver. Mais maintenant, malheureusement, il y a des gens. Il y a des gens qui refusent l'œuvre de la grâce. Il y a des gens qui leur Dieu, c'est l'argent, le matérialisme, le plaisir, la recherche du plaisir, l'amour de ce monde. Mais la Bible nous dit que le monde et tout ce qu'il contient va passer complètement. Et Dieu va recréer un nouveau ciel, une nouvelle terre. Et c'est une réalité. Nous appartenons à notre Père céleste, au royaume qui n'est pas de ce monde. Et nous représentons notre Père céleste sur cette terre comme des ambassadeurs, tout simplement. Mais notre patrie, elle n'est pas ici sur cette terre. Elle est avec Dieu pour l'éternité. Parce que nous avons été rachetés par Jésus-Christ. Et nous sommes ses enfants. À ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu pour ceux qui ont reçu Christ dans leur vie, tout simplement. Qui ont reçu cette lumière-là. Venir se jeter aux pieds de Jésus, c'est avoir une confiance absolue en Jésus et en lui seul. C'est de croire qu'il va faire l'impossible quand ce qui est humainement possible de faire a déjà tout été essayé. Quand tu as tout essayé et puis que ça n'a pas marché, mais Dieu, nous servons un Dieu, le Dieu de l'impossible, qui est capable de rendre possible ce qui, à nos yeux, est impossible. Est impossible, tout simplement. Jaïrus, tout comme cette femme-là, avec la perte de sang, vont se confier totalement en Jésus parce qu'ils ont désespérément besoin de lui. Ils ont désespérément. As-tu besoin désespérément? Est-ce que tu as ce cœur ce matin dans ta situation ou est-ce que tu as désespérément besoin de lui? Désespérément besoin. Ils vont littéralement aller directement à lui. As-tu désespérément besoin de voir Jésus à l'œuvre dans ta propre vie maintenant? Tout ce que je peux dire, c'est que ta foi en lui te pousse à l'action et viens à Jésus. On va avoir un appel ce matin et je vais t'inviter de venir à lui avec ta situation, avec ton problème. Ici, ça va bien présentement, mais viens juste avancer pour le remercier qu'il a répondu à tes prières et qu'il est ce Dieu qui prend soin de nous et que tant qu'on va rester dans le creux de sa main, on n'a rien à craindre, que personne, rien ni personne ne va pouvoir nous ravir de sa main parce que ce Dieu-là nous garde en lui. Amen. Dans le cas de cette femme-là qui venait d'être guérie, on l'a vu tantôt dans le texte, Jésus a répondu, « Qui m'a touché? » J'ai senti qu'une force était sortie de moi. Quelqu'un un jour a dit que pour faire éclore le désespoir, il suffit simplement de couver nos problèmes. Mais pour faire naître l'espoir, il suffit simplement d'aller par la foi aux pieds de Jésus avec nos situations désespérées. Et là, l'espoir va naître. Comment est-ce qu'il y en a qui croient ça? Le moment où nous percevons Dieu comme celui qui est infiniment plus grand que nos pires difficultés, c'est là où notre foi en lui devient comme une fenêtre grande ouverte, où nous lui permettons de pleinement agir dans notre vie. On lui permet. Notre foi en lui permet d'agir pleinement dans nos vies. Malgré nos situations, on lui fait confiance. Malgré que ça ne va pas bien, Dieu, je te fais confiance. Je ne la comprends pas, je ne sais pas pourquoi ça m'arrive de cette façon-là, mais peu importe, je te fais confiance, puis je vais te faire confiance jusqu'au bout. Et c'est cette foi-là qui fait que Dieu répond d'une façon ou d'une autre, infiniment au-delà de ce qu'on aurait pu s'imaginer. Ces deux personnes savent vraiment qu'en dehors de Jésus, il n'y a rien ni personne qui peut les sauver de leur situation. Il n'y a rien ni personne à part que Jésus. Et cette femme-là a déjà consulté de nombreux médecins. Puis laissez-moi vous dire, les médecins de cette époque-là, c'est un peu comme nos bouchers aujourd'hui à l'épicerie. Un peu. C'était ni plus ni moins que ça. Et c'était vraiment des... ils y allaient avec la science qu'ils avaient à cette époque-là. Puis avec, je dirais, les façons de faire parfois extrêmement douteuses. Écoutez, j'ai lu là-dessus, j'ai dit, « Maï, ça a passé par là, la madame, là. » Mais la Bible nous dit qu'elle a vraiment souffert. OK? Elle a vraiment souffert, cette femme-là. Donc on voit que cette femme-là a consulté de nombreux médecins. Elle a souffert entre leurs mains parce que le texte nous le dit très clairement et que son cas est devenu pire qu'avant. Donc, les médecins ont empiré son cas. De temps en temps, ça arrive que les médecins, des fois, parce que, bon, c'est des êtres humains, peuvent se tromper puis empirer notre cas. Moi, ça m'est déjà arrivé une fois, mais j'en veux pas parce que la plupart du temps, je vais voir mon médecin, il me donne des bons conseils et puis je remercie Dieu d'avoir permis qu'on ait des médecins que quand je sais pas, moi, le bras vire à l'envers puis on a besoin d'être réparé, ben on a un chirurgien qui est capable de remettre les choses en place puis de remettre notre bras. À un moment donné, j'ai été opéré pour le poignet puis je rends grâce à Dieu parce que j'ai jamais eu plus de douleur dans mon poignet. Mais où est-ce que c'était cassé? C'était une opération très, très, très délicate au point que il avait consulté un autre chirurgien dans je pense, à Montréal parce que mon cas était vraiment comme spécial. C'était un petit os qui était semi-lunaire, qu'il appelle, là, qui était cassé. Il a été obligé de m'embrocher comme une brochette. Mon poignet, il était comme une brochette pendant un mois et demi de temps. Au début, ça a vraiment fait mal, mais aujourd'hui, bon, il est complètement guéri. Puis je remercie Dieu pour les chirurgiens. Je remercie Dieu pour les médecins. Reste que c'est des êtres humains, ils peuvent se tromper. Mais à cette époque-là, laissez-moi vous dire que moi, j'aurais pas été voir, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Peut-être à part Luc. Puis c'était un médecin, là, peut-être que, je sais pas, il voit toutes les choses différentes, là. Peut-être que j'aurais fait un petit peu plus confiance, là. Il a peut-être juste prié pour moi, puis j'aurais été guéri, je sais pas. Mais une chose est certaine, c'est que moi, j'aurais pas été voir les médecins de cette époque-là. Mais elle était au bout de son désespoir. Elle voulait que cette perte de sang-là arrête. Puis elle a vraiment souffert, elle a vraiment souffert le martyr. Puis en plus de ça, son compte est complètement à zéro, là. Elle a plus aucun sou. Donc, la seule chose qui lui reste, c'est Jésus. Son seul espoir, c'est Jésus, c'est lui. Et on dirait des fois qu'on attend longtemps avant d'aller voir Jésus. On attend d'être vraiment magané avant d'aller le voir. Puis des fois, on dirait que inconsciemment, on le prend comme notre dernier recours. Mais laissez-moi vous dire que Jésus, lui, n'a pas déçu cette femme-là. Que quand on met notre confiance en lui, une chose est certaine, on n'est jamais déçu. On n'est jamais déçu. Au final, on n'est jamais déçu. Des fois, on peut prier. En priant, on voit notre situation se rempirer. Puis Dieu permet des choses de même des fois pour voir jusqu'où on va y faire confiance. Jusqu'où je suis prêt à y faire confiance. Abraham, Dieu, il a demandé à Abraham de sacrifier son propre fils. De toute façon, Dieu l'a fait. C'était une image de Dieu qui était pour envoyer Jésus puis d'offrir son propre fils sur la croix comme sacrifice. Mais il demande à Abraham d'offrir le fils de la promesse. Écoute, ils ont eu assez de misère à avoir cet enfant-là. Puis cet enfant-là, c'est un enfant miracle parce qu'ils l'ont eu dans leur vieillesse, 90 ans et plus. Imaginez. C'est vraiment un miracle. Puis là, Dieu demande à Abraham de sacrifier le fils de la promesse. Et c'est une épreuve, ça, là. Wouh! Ça va pas bien, là. Mais Abraham, il a fait confiance. Et quand il est arrivé pour lever le couteau, l'ange est arrivé, « Wow, arrête! » Puis Dieu a dit, « Là, j'ai vu ta foi. » Dieu l'avait, il avait comme éprouvé sa foi pour que Abraham réalise lui-même que Abraham était prêt à tout avec Dieu, à lui obéir jusque dans le moindre détail. Et cette femme-là, elle n'a que Jésus, tout simplement. Et Jairus, lui, de son côté, il est conscient que sa fille, qui l'aime profondément, est sur le point de mourir. Puis effectivement, on va voir plus loin, la semaine prochaine, on va le voir, qu'effectivement, sa fille va mourir. Imaginez. Mais il y a des petits détails entre-temps que je veux vous partager, qui sont vraiment intéressants. Donc, ça va vraiment pas bien pour eux. On dit en québécois, ici, on dit ça va mal à la chope. Ça va pas bien, ça. Ça va vraiment pas bien dans la cabane. Donc, imaginez ces deux personnes-là, OK? Cette femme-là qui a une perte de sang et ce gars-là qui est sur le point de perdre une fille qu'il aime profondément. Imaginez toute la charge émotionnelle qu'ils avaient respectivement endurée, ces deux personnes-là. Et pourtant, ils sont allés vers leur seul espoir qui est Jésus. Et laissez-moi vous dire, encore une fois, qu'avec Jésus, on va se rendre. Venir se jeter aux pieds de Jésus, c'est une confiance en lui qui nous libère complètement de la honte. Et j'aimerais revenir sur le cas de cette femme-là. En ce qui concerne cette femme-là, elle souffre depuis 12 ans, on le répète depuis tantôt, elle souffre depuis 12 ans d'une perte de sang et elle ose quand même aller toucher secrètement le bord du vêtement de Jésus. Et on voit dans le texte qu'elle le fait d'une façon incognito. Donc pourquoi, et là j'ai marqué une question ici, pourquoi cette attitude de sa part, il y a une raison simple du pourquoi qu'elle voulait passer incognito. Et ça, c'est quelque chose que je savais plus ou moins, mais que j'ai approfondi cette question-là, et là j'ai compris que cette femme-là, elle a vraiment eu un profond courage d'aller vers Jésus. Parce que la raison pour laquelle elle voulait passer incognito, c'est parce que sa perte de sang était vue comme quelque chose d'impur. Selon la loi de Moïse, dans Lévitique, chapitre 15, versets 25 à 27, ça nous dit que non seulement cette femme-là, selon la loi de Moïse, non seulement cette femme-là était légalement considérée comme impure, mais en plus, elle rendait impure toutes les personnes et les choses qu'elle touchait. Donc, dès qu'elle touchait, elle frôlait quelqu'un, elle rendait la personne, selon la loi de Moïse, elle le rendait impur. Et c'est pour ça qu'elle voulait, puis le texte fait vraiment du sens, c'est pour ça qu'elle voulait passer incognito. Parce qu'elle savait qu'elle pouvait subir de lourdes conséquences de désobéir à la loi de Moïse, qui disait que, regarde, il faut que tu restes isolé, il faut que tu restes dans ton coin, il faut que tu restes en marge de la société parce que tu es impur, et que à cause de cette impureté-là, l'isolement fait que tu contamineras pas les autres. C'est ce que la loi de Moïse disait. Parce que cette loi-là avait été faite pour quelqu'un qui, si ses règles pour une femme duraient plus longtemps que prévu, mais cette femme-là s'isolait, et quand les règles arrêtaient, même si c'était long, après ça, il fallait qu'elle passe 7 jours à se purifier, et après ça, elle pouvait rejoindre la société. Ça, c'était dans la loi de Moïse. Mais on voit ici que Jésus, il était la loi, et que Jésus donnait tout le sens à la loi aussi. Et que Jésus, au travers ce qu'il a fait au travers de cette femme-là, a démontré une pure grâce. Et ça démontre nos cœurs aussi. Et ça démontre, en tout cas, il y a vraiment quelque chose de très puissant au travers de tout cela. Donc, en ce qui concerne cette femme-là, elle devait vivre isolée des autres, de la communauté. Et cette femme est profondément consciente, elle est profondément consciente de son impureté, mais elle va quand même traverser la foule qui est hyper dense, elle va traverser cette foule-là avec audace, dans un geste vraiment désespéré. Elle dit, je m'en fous, s'il faut que je me fasse lapider parce que je contamine tout le monde, mais moi, là, il faut que je touche Jésus. Il faut absolument que je le touche. Et puis, je m'en fous que je ne sais pas, moi, j'en frôle quelques-uns. Elle, là, c'est un geste de désespoir qu'elle pose, de passer au travers la foule. Imaginez, c'était une barrière pour elle. Elle avait la loi qui était là. Et d'un côté, elle aurait pu rester là et mourir de sa perte de sang, ou elle va vers son dernier recours, vers celui qui est le recours des recours, aller vers Jésus. Elle traverse la foule, la Bible nous dit, avec audace, dans un geste désespéré, et elle va aller toucher le bord du vêtement de Jésus, qui lui était parfaitement pur. Et là, c'est le miracle total. Et c'est là que ça devient intéressant pour chacun de nous. Le miracle total. Au lieu de souiller Jésus, c'est elle qui devient pure et complètement guérie de son mal. Et c'est ce que c'est Jésus. C'est lui qui nous purifie. Et que quand on se sent souillé, quand on se sent sale, on peut aller auprès de lui. Et il peut nous laver, nous purifier de tout ce qui nous souille, de tout ce qui nous rend impur. Et ça, c'est merveilleux. Jésus. C'est ça l'effet Jésus. L'effet de Jésus sur les gens qui viennent à lui pour le toucher et le laisser les toucher avec foi. Quelle grâce infinie de l'amour de Dieu pour nous. Et maintenant, comment un miracle aussi puissant peut rester dans l'ombre? Et là, c'est pour ça que là, je m'en viens à cette partie-là qu'on a lue tantôt, quand Jésus dit « qui m'a touché ». Et là, Jésus demande qui l'a touché. Cette femme qui essaie de rester dans l'anonymat à cause de son impureté, elle est placée directement sur les projecteurs, les spots, et là, elle s'approche de Jésus en tremblant et exprime devant Jésus ce qui vient d'arriver devant lui et devant la foule de témoins sur le pourquoi et le comment de sa guérison. Quel témoignage! Et là, c'est sûr, et puis là-dedans, imaginez, avez-vous déjà réfléchi que Jaïrus était lui-même quelqu'un qui connaissait la loi, qui était non seulement quand cette femme-là était guérie, mais lui, Jaïrus, était à côté de Jésus. Quand la femme est venue toucher le vêtement, Jaïrus, lui, avez-vous déjà réfléchi? Il était à côté, lui, il marchait avec Jésus. Il s'en allait vers sa fille. Là, il y a une interruption, c'est sûr qu'il devait avoir hâte là, d'arriver voir sa fille, mais là, il voit une femme impure. Lui, il la connaît, la loi. C'est un chef de synagogue. Vous savez qu'à partir de l'âge de 12 ans, dans l'éducation juive, à partir de 12 ans, ils apprennent par cœur les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. La Genèse, OK, l'Exode, Deutéronome, Lévitique, Nombre, ils apprennent par cœur, les 5 premiers livres de Moïse. Fait que ce gars-là, il est au courant de Lévitique, chapitre 15. Il est au courant que cette femme-là, elle vient d'être purifiée et que lui, dans sa théologie, là, il vient mêler. Il dit, mais ce qui est glorieux dans tout ça, c'est qu'en lui, ça y donne encore, comment je pourrais dire, de booster sa foi, parce qu'il se dit, si Jésus a guéri une femme impure, et puis que Jésus n'a pas été touché par cette impureté, mais au contraire, la pureté de Jésus a purifié cette femme-là, a guéri cette femme-là. Imaginez ce que cet homme-là, dans son cœur, a reçu comme bénédiction. C'est qu'il y a un autre couche d'espoir qui s'est rajoutée dans son cœur. Est-ce que vous réalisez ça ce matin? Il a vu la guérison et probablement que Dieu a permis cette situation-là pour que lui, dans son cœur, soit encouragé. Et puis vous savez, par la suite, il a entendu parler que sa fille était morte, mais il a continué encore le chemin. On va le voir la semaine prochaine. Il a continué encore sa démarche. Donc, Jaïrus connaissait parfaitement la loi de Moïse et je crois que la guérison de cette femme a eu un impact profond dans la foi de Jaïrus et dans la suite des événements qui vont mener à la résurrection de sa fille, comme nous le verrons la semaine prochaine. Mais avant ça, revenons à cette femme-là qui vient tout juste d'être guérie et purifiée de son mal. La Bible nous dit que voyant qu'elle n'était pas passée inaperçue, fait qu'à un moment donné, elle est sous le spot, les projecteurs sont là. Jésus fait vraiment exprès de la mettre sous le spot, mais il y a une raison pour cela. Donc, voyant qu'elle n'était pas passée inaperçue, la femme vint, toute tremblante, se jeter à ses pieds. Elle déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touchée et comment elle avait été immédiatement guérie. Et Jésus lui a dit, en la rassurant, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix, sois guérie de ton mal. » Wow! Je vous pose la question ce matin. Est-ce que Jésus a changé aujourd'hui? Ou c'est la même chose? Que nous, par la foi, on a la possibilité de toucher son vêtement, que dans nos situations, même les plus critiques, même les plus invraisemblables, même les plus déroutantes, qu'on peut vraiment toucher à son vêtement par la foi et être réconforté, même si tout ne se règle pas immédiatement, mais de savoir qu'il est là et que on va traverser cette tempête-là. Donc, cette femme-là repart sauvée, elle repart en paix avec Dieu et avec elle-même et complètement guérie de son mal. Donc, sa foi en Jésus l'a aidée à surmonter tous ses obstacles personnels et à trouver enfin une parfaite délivrance en lui. Donc, la foi de cette femme s'est élevée au-dessus de ses craintes personnelles, de ses obstacles, de ses douleurs, de ses désappointements, et elle est venue toucher Jésus et elle a été instantanément guérie. Parce qu'elle le croyait. Vous savez, au début, quand on a lu le texte, elle dit « Si seulement je peux le toucher, si seulement je peux le toucher, je vais être guéri. » Et c'est ce qu'elle a fait. Et je crois que Dieu, dans sa grâce, je crois que Dieu, dans son amour, lui a donné aussi des forces pour s'y rendre aussi, pour toucher Jésus. Des fois, on a comme des fois des périodes dans nos vies où est-ce que même on ne se sent plus capable. C'est comme, on a comme une perte de sens spirituel, on se sent faible, on a une perte d'énergie, et là, c'est comme, on n'avait même plus la force de prier ou de demander à Dieu quoi que ce soit. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi je crois que Dieu peut nous donner une grâce, même à travers ces moments-là, si on lui demande, Dieu, donne-moi la grâce de juste toucher ton vêtement, de juste te toucher et de me laisser toucher. Combien est-ce qu'il y en a qui croient qui peut le faire si on est vraiment sincère dans nos situations, qui le demandent tout simplement? Donc, Jésus a senti qu'une force était sortie de lui. Donc, lorsque nous touchons Jésus par la foi, il y a comme un échange qui s'opère. Nous ne sommes plus jamais les mêmes après ça. Cette femme-là n'a plus jamais été la même après. On va voir que Jaïrus, c'est la même chose, n'a plus jamais été le même. Les gens qui ont été touchés par Jésus, qui ont eu une touche de sa puissance, de sa présence, laissez-moi vous dire, ils ne sont plus jamais les mêmes après. Je vous le dis, je vous le certifie, puis vous le savez vous-même. Quand Jésus vous a touché, vous n'avez jamais plus été le même après. Et c'est ce qui fait qu'on est encore ici ce matin, autour de lui, en train de le louer, de l'adorer, de l'honorer et d'approfondir son message, sa parole, tout simplement. Donc, sa puissance passe de lui jusqu'à nous. Comme cette femme, nous faisons tous face à des situations difficiles dans nos propres vies. Nous avons besoin de tout simplement regarder aux promesses de Dieu et de nous attacher à Jésus. Donc, nous devons aussi éviter de nous fondre dans la foule en se disant que si Dieu le veut, il va me toucher, regarde, il me touchera. Non, non. Moi, il y a une prière qui s'appelle la prière du tout pour tout, la prière du désespoir. Seigneur, j'ai tel besoin. Seigneur, j'ai besoin de telle réponse. Et Seigneur, que je puisse toucher ton vêtement par la foi, tout simplement, pour avoir une réponse, tout simplement, ou une direction, ou peu importe la situation. Nous devons éviter de nous fondre avec la foi. C'est à nous de toucher par le moyen de la foi jusqu'à ce qu'un échange de grâce et de puissance se fasse dans notre vie, tout simplement, par sa grâce. Et puis, c'est important de faire tomber aussi toutes les barrières qui veulent nous empêcher de nous approcher de lui, de le toucher. Et la parole de Dieu et notre Seigneur nous encourage ce matin à lever nos mains vers lui jusqu'à ce que nous sachions au fond de nous que nous avons reçu ce que nous avions besoin, tout simplement. On doit s'approcher de Jésus dans une rencontre personnelle d'abord et avant tout. Je pense que le secret, c'est notre relation avec lui, de prendre un temps chaque jour avec lui, de lui ouvrir nos cœurs. Peut-être que tu es ici ce matin, peut-être ça fait des années que tu as peur de t'approcher de Jésus, ou pour toi, peut-être que ça ne te dit rien pantoute, ou peut-être parce que tu penses que tu es trop impur pour lui. Peut-être que tu vis dans une sorte de honte ce matin, et qu'en ce moment, tu aimerais vraiment en être délivré. Mais je veux juste te dire, viens à Jésus. Viens à Jésus à ses pieds pour être complètement purifié par lui. 1 Jean, et je termine avec ça ce matin, 1 Jean, le chapitre 1, le verset 9 nous dit, « Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de tout mal. » Si nous les confessons, si nous venons à lui, « Ok, Seigneur, il y a une affaire qui ne marche pas dans ma vie, tu le sais, je le sais. Il y en a qui le savent ou il y en a qui ne le savent pas. Mais il y a peut-être quelque chose de secret dans ton cœur qui t'empêche de vraiment vivre une relation personnelle et tu vis dans une honte constante ou dans une indifférence constante. Mais juste te dire ce matin, approche-toi de Jésus. Il va faire la différence dans ta vie. Il va réellement faire la différence. Je vous le dis, il l'a fait avec moi, il continue à le faire avec moi. Mais laisse-moi vous dire que les gens qui font appel à lui ne sont jamais déçus. Personne n'est déçu de faire affaire avec lui et de lui donner son cœur et de lui faire confiance et de le laisser nous transformer, nous changer. J'aimerais terminer avec une pensée ce matin. Ça nous dit que pour engendrer le désespoir, il nous suffit d'entretenir nos problèmes et de les voir plus grands que Jésus. Mais pour faire naître l'espoir, il faut aller au pied de Jésus avec nos besoins, avec nos requêtes et mettre tout notre espoir en lui et de faire appel à lui, tout simplement. Amen. Je vais faire un appel ce matin. Disons que on sait que on vit tous des choses. Il y a des personnes qui sont autour de nous qu'on voudrait peut-être voir toucher. Il y a peut-être, comme j'ai mentionné tantôt, quelque chose qui est dans ta propre vie, qui a pris place. Tu ne sais pas comment t'en défaire. C'est comme pris après toi, comme avec des griffes, c'est grippé après toi. Et puis que tu sais pertinemment qu'il y a juste Jésus qui peut enlever ça de ta vie. Ça peut être une mauvaise habitude, une mauvaise attitude, quelque chose en toi que tu n'aimes pas. Tu te regardes dans le miroir et tu n'aimes pas ça. Ça peut être une situation qui perdure, que tu n'es pas capable de dealer avec ça. Approche-toi de Jésus. Approche-toi de lui. Son esprit va vraiment pénétrer ton cœur et t'amener la solution, t'adresser peut-être les bonnes questions aussi, pour trouver les bonnes clés aussi. Combien est-ce qu'il y en a qui croient que Dieu sait toute chose, que Jésus-Christ peut faire toute chose, qu'il peut, si vraiment nous mettons notre confiance en lui, faire au-delà de ce qu'on peut penser, imaginer ou croire. Combien est-ce qu'il y en a qui croient ça ce matin? On va partir ce chant-là. Je vais faire l'appel. Avancez-vous. Si ça va bien, ben avancez-vous pour remercier Dieu. Si ça va pas bien, on va prier pour vous. Je demanderai peut-être mon épouse de s'avancer. Paul aussi ou... Des gens pour prier avec moi, tout simplement.
Je suis sans rien à
Mais avancez-vous
moi,
à Jésus ce matin, sans rien à vous, comme ce chant. Écoutez les paroles de ce chant, avancez-vous et remettez toutes choses entre ses mains, tout simplement. Père éternel, on veut te remercier ce matin pour l'œuvre que tu fais en nous. Je veux te remercier parce que tu n'as pas fini de nous étonner, Seigneur, jamais. Et dans la mesure où on met notre confiance en toi, dans la mesure où tu agis et que tu transformes nos situations à ta gloire et à ton honneur, même si pour un temps on doit traverser des moments difficiles, Seigneur, je te remercie que jamais tu ne nous délaisses. Comme ce chant de ce matin, jamais tu vas nous abandonner, Seigneur, tu vas toujours nous garder près de toi et nous aider à traverser et à marcher dans ton chemin. Merci que tu nous en donnes cette grâce et que tu nous remplis de cette force et cette puissance qui vient de toi. Père, on te remercie dans le nom de Jésus. Amen. Donc, ceux qui veulent s'avancer, je vais tasser la tribune et puis je vous invite, on va prier ensemble.